RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi,
François Pinet.
Il est 11h04, ravi de vous retrouver pour les GG du sport, les grandes gueules qui sont debout depuis ce matin pour débattre à partir de 9h. Évidemment, on a débattu avec les deux premières heures qui sont disponibles dès maintenant en podcast pour écouter notamment le témoignage de Laurent Cambrubi, témoignage incroyable du skipper qui a été sauvé miraculeusement cette semaine après avoir chaviré. Nos GG du matin, Marion Bartoli, Richard Dourte et Frédéric Veil. C'est vrai que moi je n'ai pas l'habitude de me lever tôt. Je sais pas si c'est ton cas, Fred, mais...
Je déteste me lever tôt. C'est pour ça que j'ai fait du sport.
Voilà, Richard, je sais qu'il ne se couche pas, de toute façon, c'est sa solution.
Voilà, donc j'ai déjà levé, moi.
Et Marion, elle, c'est la tôlière. Elle est là, aux aurores, bien évidemment, pour les GG. Tu pourras donner une note, d'ailleurs, à tes deux petits camarades qui débutent dans l'exercice.
Non, mais ils sont très, très bons. Ouais. Ils sont excellents.
Marion, c'est beau, mais c'est gentil.
Et je trouve François très fort aussi.
Ah, c'est gentil. Bah, attention, parce qu'il reste quand même une heure. Hein. Je peux vraiment tout peut s'effondrer en quelques minutes.
Ouais, c'est vrai que t'es excellent, François. Moi, je te trouve magnifique.
Bah, arrêtez,
t'es
le meilleur. Arrêtez.
Tu peux faire une PSG, tu vois, dernière minute. Ah, là, voilà, c'est ça. Dans les prolongations.
Exactement.
Et voilà, et
ouais, c'est tout à fait mon style. Dans 30 minutes, nos GG seront sur le terrain et là, même carrément aux tribunes, avec les décisions de la Ligue pour éviter la violence dans les stades. Est-ce que ça suffira, selon vous, à éviter les débordements? On vous rappellera bien sûr toutes ces décisions. Et puis à la fin de l'émission, on vous accueille, fidèle auditeur des GG. C'est votre moment. Si vous n'êtes pas d'accord avec une de nos GG, bah vous le faites savoir. Vous appelez Amina, le standard, vous faites le 32-16 et vous venez dire à cette GG en face ce qu'elle mérite, ou en tout cas presque en face. Mais d'abord, les GG qui passent la seconde. On va passer la seconde avec les GG et parler d'un sujet récurrent dans les grandes gueules du sport. Les supporters ont-ils tous les droits en Marseille? En tout cas, la question se pose.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Il y a les clubs, il y a l'entraîneur et il y a les joueurs. Tout changement, il faut mettre du temps à s'adapter.
Oui, alors que son transfert semble en très bonne voie, le joueur de la Roma n'est apparemment pas le bienvenu.
Ça, c'est un réflexe de la vie actuelle, les réseaux sociaux.
Vous ne me dérangez pas, je suis là pour vous écouter.
De demander une réunion là, par des joueurs. Tu peux aussi dire si t'es président. Les gars, attendez, c'est pas vous qui décidez. Ça va se passer comme ça. Et ceux qui adhèrent pas au projet, ben, ils n'adhèrent pas au projet.
Qu'est-ce que c'est que ce tissu de cochonnerie?
Veretout, not welcome, un hashtag qui fait un énorme buzz sur Twitter. C'est une vague d'indignation.
Ça veut dire que le nouvel entraîneur est déjà fragilisé.
Eh oui, Fred me regarde avec cette consternation.
Ah oui, la musique, c'est toi qui faisais la musique?
Non, c'est Geoffrey Charpille, le
producteur. Ah, mais je comprends mieux alors.
Que tu connais. Dans ce cas-là, faut toujours envoyer la faute sur l'autre.
Voilà, vous l'avez comme ça, cette musique de Grégoire.
Et
toute la journée.
Surtout quand t'as Fred en face.
Oui.
C'est pas moi, c'est lui.
On va accueillir un autre mélomane. Florent Germain, notre correspondant à Marseille, est avec nous. Salut Florent.
Quelle présentation. Salut François, salut à tous.
Salut.
Alors, on a vu à Marseille cette semaine fleurir ce hashtag Veretout not welcome. Veretout, tu n'es pas le bienvenu à l'OM. Le milieu de terrain est à l'OM. Finalement, il a signé son contrat. C'est pas la première fois que des supporters s'opposent à la venue d'un joueur. On va en parler avec toi, Flo. Mais d'abord, cette question. Musique qui fout les jetons, Alban. Les supporters ont-ils leur mot à dire dans le mercato de leur club? Oui ou non, Marion Bartoli?
Oui, mais pas dans ce cas-là.
Un oui, mais... Tiens. Frédéric Vach.
Non.
Non. Richard.
Un gros non.
Ah, encore un gros nom pour
Richard. Je le fais tout seul en fait.
Décidément, Marion.
Décidément, c'est ma matinée. Ah ouais.
Avant de vous entendre plus largement sur ce sujet, Flo, on va parler des supporters de l'OM qui ont donc forcé le président à s'exprimer sur le sujet du mercato.
Oui, on l'a entendu, c'était mercredi. Alors, il s'est même montré plutôt agacé, Pablo Longoria, qu'on puisse comme ça salir son joueur alors qu'il s'agit d'une affaire privée très sensible. En fait, il était reproché mercredi, pour être très, très clair, mercredi sur les réseaux sociaux uniquement, reproché à Jordan Veretout d'avoir payé la caution de son beau-père qui a été condamné il y a quelques années pour des actes de pédophilie. Ça a été démenti dès le lendemain par des proches du dossier. Et j'insiste, François, sur le fait que cette vague d'indignation, elle a eu lieu uniquement sur Twitter. Elle a duré 12 heures, 24 heures maximum. Ce Veretout not welcome qui a fleuri sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien nu sur Marseille, vraiment. Aucune affiche, aucun tag ou quoi que ce soit. Donc c'est le propre de Twitter, des polémiques qui souvent se dégonflent en quelques heures. Et c'était le cas puisque jeudi, il y avait même des supporters qui s'excusaient après avoir eu quelques précisions ou démentis sur le dossier. Donc, Veretout est arrivé vendredi dans le plus grand des calmes à Marseille, à l'aéroport de Marignane. Il a été présenté hier, on va l'entendre juste à la fin de cette petite intervention. Et effectivement, il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que tout d'un coup, il y a des supporters qui veulent empêcher un transfert. Anthony Mounier, rappelez-vous, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais qui avait reçu des menaces de la part des supporters de Saint-Etienne. Là, on est dans la rivalité purement sportive. Hein. On ne voulait pas qu'un ex de l'OL arrive chez les Verts. Il a renoncé à signer. On a eu à peu près le même cas l'été dernier. Kevin Gamero, qui était tout proche de s'engager avec l'Olympique de Marseille, il a vu qu'il y avait quelques messages qui ressortaient de supporters marseillais, quelques déclats anciennes de lui qui ont été ressortis. Et ça l'a refroidi, il a signé finalement à Strasbourg. Donc voilà, c'est pas idéal pour commencer une aventure, mais au moins Jordan Veretout, écoutez, hier en conférence de presse, a voulu prendre la parole et rassurer les supporters sur évidemment son engagement et le fait qu'il est là uniquement pour jouer au football.
Je suis ici pour jouer au football. C'est sûr que c'est des moments difficiles, compliqués. Maintenant, en aucun cas, je cautionne des tels faits. Je rentre en rien dans cette histoire-là. Je suis ici à l'Olympique de Marseille pour jouer au football, pour passer de bons moments avec tout le monde, que ça soit à l'intérieur du groupe ou à l'extérieur au Vélodrome, avec les gens. Je suis quelqu'un qui est apprécié généralement. Et voilà, aujourd'hui, je suis ici pour jouer au football, pour m'éclater et d'avoir de grands résultats à l'Olympique de Marseille, pour vivre de belles émotions. Et je me battrai jusqu'à la fin pour gagner des titres ici. Hein.
Alors, j'aimerais qu'on ne reste pas sur cette affaire et sur Jordan Veretout, mais qu'on élargisse le débat. Je vous rappelle la question. Les supporters ont-ils leur mot à dire sur le mercato? Là, visiblement, Marseille a quand même fait ce transfert. Et tu as raison, Flo, de rappeler que ce ne sont que des supporters de l'OM qui se disent supporters de l'OM sur les réseaux sociaux, hein, qui ont montré leur mécontentement. Mais d'autres transferts, et tu l'as rappelé, n'ont pas été faits suite à des mécontentements de supporters. Est-ce que, Richard, toi, tu nous as dit, c'est un gros nom, les supporters, ils n'ont rien à dire sur le mercato de leur club. J'aimerais bien t'entendre là-dessus.
Non, c'est pas qu'ils n'ont rien à dire, c'est un gros nom.
C'est un gros nom, les supporters ont-ils leur mot à dire?
Je ne sais pas dire ce que j'ai passé.
Richard, je ne veux pas me mêler, c'est pas mon style, mais quand tu dis un gros nom sur cette phrase, c'est un peu
ah oui, ils n'ont rien à dire. Alors j'assume, ils n'ont rien à dire. Ils ont le droit de donner leur avis, mais pas le président ou l'entraîneur, il veut ce joueur. Les supporters ne sont pas d'accord. Ils le font savoir, mais ils n'ont pas à intervenir, ils n'ont pas le droit de mettre un veto de quoi que ce soit. Et après, si ça se trouve, le joueur, lui, comme a fait Gamero, il a dit non, moi je suis pas le bienvenu, je viens pas. Après, tu prends tes bourses, tu les mets sur la table pour rester poli, parce qu'on est à la radio, et tu y vas dans le club. Ok, j'y vais, c'est moi, regardez les supporters, je suis là et je vais être bon. Après, t'es pas bon, t'en prends deux fois plus dans la figure, quoi. Mais les supporters, ils ont le droit de donner leur avis, mais ils n'ont pas à intervenir dans un recrutement. Moi, je veux pas lui, ok, très bien. Et puis les réseaux sociaux, pour revenir sur les réseaux sociaux, c'est des gens à qui le courage pousse derrière un ordinateur, quoi. Parce que, voilà, ils se permettent, et les gens réagissent parce qu'ils reçoivent des notifications. Ok, Veretout, not welcome, ok, moi aussi, je partage. Et puis finalement, c'est un coup d'épée dans l'eau, ce sont des bêtises. Donc voilà, les présidents, les entraîneurs font un recrutement, il y a des directeurs sportifs aussi. Après, c'est à eux d'assumer, les supporters ne sont pas d'accord. Et après, ils peuvent dire, je me suis trompé, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et si jamais le joueur ou le président font contre l'avis des supporters et que finalement ce sont les supporters qui ont raison, mais après, c'est au président et à l'entraîneur d'assumer, quoi.
Alors, Flo Germain, je précise, est toujours là. Hein. Tu peux réagir quand tu veux, Flo. Hein. N'hésite pas, bien sûr. Mais j'ai donné la parole à Marion. Marion Bartoli, oui, mais... à cette question.
Oui, mais parce que effectivement, comme l'a expliqué Flo, en fait, quand tu creuses un petit peu ce dossier, c'est du vide.
Ah oui, sur ce dossier-là,
pauvre,
oui, bien sûr.
Voilà. Donc le pauvre Veretout, il a absolument rien à voir et on lui fait un faux procès et on le jette en pâture comme ça sur les réseaux sociaux. Et alors, comme l'a très bien expliqué Flo, c'est des polémiques qui dégonflent aussi vite qu'elles ont gonflé finalement. Après, c'est juste lui au départ, cette capacité ou non. Et c'est là où je rejoins Richard, de se dire, moi, je sais que j'ai ma conscience pour moi et j'ai rien à voir là-dedans et donc je vais aller à Marseille et voilà, je vais prouver entre guillemets mon innocence dans ce dossier s'il a encore envie de prouver quelque chose. Après, sur le fond du problème, effectivement, il y a des clubs où les supporters ont plus, on va dire, de poids que dans d'autres. Alors, on sait très bien qu'à Marseille et à l'OM, effectivement, le poids des supporters est colossal et qu'un transfert va forcément mieux se passer si les supporters attendent un joueur parce qu'ils le considèrent comme parfait pour l'OM ou même attendent un entraîneur, que s'ils sont un peu plus remontés contre ce joueur-là, ça c'est certain. Mais sur le fond, pour moi, en fait, les supporters ont leur mot à dire dans la mesure de quand même une certaine décence. Et c'est respect, là où je rejoins Richard, c'est qu'ils peuvent pas, voilà, entre guillemets, choisir qui vient et qui vient pas. Ça, c'est non. Et encore moins faire un faux procès comme ça à un joueur qui a absolument rien à voir dans une affaire et le jeter en pâture comme ça et jeter son nom en pâture comme ils l'ont fait. Ça, c'est sûr que non. Mais après, c'est vrai qu'il y a une vérité. C'est que, par exemple, si tu joues contre, ou t'as joué pour un club ennemi, bah, tu vas pas forcément venir sur le club. Par exemple, si t'as joué au PSG pendant des années, tu vas pas faire un transfert à Marseille. Bah, il y a juste des choses qui se font.
Ça a été fait, hein, Marion.
Oui, mais c'est plus compliqué à gérer.
Oui, mais ça a été fait.
Mais tu l'assumes.
Comme vous le disiez d'ailleurs, il a fallu prouver et être peut-être encore plus fort, comme on l'expliquait avant. Ouais, un Gabi Heinze, par exemple, bon, il a été champion, état d'esprit irréprochable. Un Jérôme Leroy, enfin, il y a des joueurs qui ont réussi à faire de grandes choses. Mais ouais, voilà, tu pars avec un petit désavantage, mieux. Mais comme tu disais, il faut avoir le courage et dire c'est pas grave, je vais au-delà de la rivalité et je vais me faire aimer par les supporters.
On va aller plus loin, le Barça-Real.
Ah oui, bah Barça-Real, on a eu des figos, etc. etc.
Oui. Ben ouais. Bien sûr. Et voilà, donc les supporters du Real Madrid.
Mais tu vois Ronaldo qui avait éventuellement envisagé la possibilité d'aller à City. Tu vois, il y a quand même, je pense, des coups de fil qui ont été passés en disant, bah là, à un moment donné, non, quoi.
Et d'ailleurs, Marion disait, disait un truc
Ronaldo
assez.
Pleine fleur de l'âge, quoi.
Marion disait un petit truc assez intéressant. Je vous ai coupé.
Vas-y, Flo.
Tu disais, Marion, que dans des clubs, c'est plus difficile. Et une petite anecdote, bon, sans citer son nom, mais il y a un président de l'OM qui me disait il y a quelques années que lui, il volontairement, parfois, il laissait filtrer une rumeur sur un joueur pour savoir comment il allait être éventuellement accueilli par les supporters. Parce qu'on disait, c'est arrivé qu'il y ait des ex de Lyon ou des ex de Paris qui viennent à l'OM. Et il préférait, voilà, quelques jours avant, quelques semaines avant, laisser filtrer un petit peu cette rumeur, voir comment ça réagissait. Et du coup, là, on touche quand même du doigt le fait que les supporters ont un rôle. Parce que si tu sens que derrière, il va être mal accueilli,
ouais,
ça
bah oui,
va être
bien
un
sûr.
Peu, ouais, un, bien un peu la fronde, et ben, ils peuvent renoncer.
Mais les joueurs de caractère ou les joueurs qui se font remarquer ou pas forcément parce qu'ils sont dans un club rival, les supporters de on va prendre Marseille, que les supporters ne l'aiment pas. Il est possible qu'après, parce qu'ils jouent dans leur club, ils veulent pas qu'il vienne, mais ils l'adorent parce que ben, finalement, ce qu'il faisait avec les adversaires, il le fait avec l'OM.
Alors Richard, c'est vraiment prendre des supporters pour des girouettes, ça quand même.
Si t'es un joueur, il te met 45
non,
buts
pas du
dans
tout,
une
pas
saison,
du tout,
c'est sûr qu'ils vont l'aimer, hein, ça je te le dis.
Oui, mais Richard, c'est quand même... Alors, je vais me faire l'avocat du diable parce que visiblement, tout le monde est d'accord sur ce plateau, mais donc je vais quand même vous dire que pour l'instant, d'après ce que j'entends, vous considérez que les supporters, très bien, ils payent leur place pour le stade, ils achètent des maillots des joueurs, mais ils n'ont pas leur mot à dire sur un joueur qui ne représenterait pas, par exemple, l'identité du club.
Non, c'est pas. Ils ont pas le droit d'intervention.
Qui détermine cette identité?
Ça y est, tu
dérailles.
Je
t'avais
prévenu,
Marion.
Non, mais tu es trop mesuré, Marion, sur ce côté-là. Franchement, j'ai l'impression que vous vous retrouvez tous pour dire que les supporters, en gros, ils n'ont pas grand-chose à dire sur le mercato. Fred, on t'a pas encore entendu là-dessus. Même si on a entendu ta grosse voix, mais pas assez longuement.
Moi, déjà, il y a deux versions. Pour commencer, pour moi, les supporters sont très importants, sont l'âme d'un club. Mais pour paraphraser un grand homme, Richard, qui a dit que les présidents président, les entraîneurs entraînent et les joueurs jouent. Bah, les supporters supportent. Ils sont là pour supporter et pour...
Et payer,
c'est oui, parce que tu es vénal. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est surtout pour applaudir et supporter son équipe. On aime son équipe quoi qu'il arrive, normalement. Et je comprends pas. Alors il y a déjà deux procès. Il y a le procès qu'on fait sur Twitter ou sur les réseaux sociaux en général. Et ça, c'est des procès publics qui me dérangent absolument. Déjà pour moi, c'est inadmissible. Et déjà, je vais faire abstraction de ces procès-là. Et ensuite, les procès de il vient d'un autre club et donc on va pas l'aimer. C'est complètement ridicule. Pourquoi tu l'aimerais pas? Effectivement, je rejoins tout le monde qui dit bah c'est pas parce qu'il justement il a été bon, on l'a recruté chez nous. Pourquoi il ferait pas la même chose?
Parce qu'il y a une garantie d'identité de club et certains.
Mais l'identité de club, c'est ça. Mais l'identité de club, c'est adapté.
Bah oui, mais justement peut-être que
c'est tellement maintenant que c'est compliqué d'avoir une vraie identité. Il faut une équipe qui gagne. Qu'est-ce qui plaît aux supporters?
Peut-être que ça manque, ça vous fout actuellement.
Mais qu'est-ce qu'ils préfèrent? Gagner ou avoir une identité.
Ah bah alors ça, faudrait leur demander.
Ben, c'est une vraie question.
Ouais. Moi,
c'est une
vraie question que je pose. Tu me fais dire à moi des choses, les supporters, je prends les supporters pour des imbéciles. Mais pas non, du tout,
plus de
voilà,
alors
pas
là,
du tout. Mais
là,
tu sais très bien qu'un joueur, un joueur va être détesté parce qu'il joue avec un adversaire, parce que peut-être il est bon, parce qu'il est costaud, parce qu'il est ci, parce qu'il est mi. Et puis, on veut pas qu'il vienne, on le siffle et tout. Et puis finalement, quand il est dans ton équipe, bon, au début, il va falloir qu'il prouve. Et quand il a prouvé, mais tout le monde l'adore.
Ouais, il faut sacrément de caractère quand même, hein, Gérard, par contre.
Ouais.
Parce qu'au début, supporter les huées de.
Moi, ça m'est arrivé parce que je suis chez tout le monde. Et après, quand j'allais dans les clubs, finalement, les gens ils me disaient.
Mais c'est exactement ce que tu as fait ce matin au début. Hein, on a tous voulu te siffler. Et finalement, on t'adore. Hein, tu vois.
Ouais, non, mais on m'a beaucoup sifflé.
Après, je parle sous ton contrôle, mais on parle toujours du championnat français, mais il y a quand même d'autres championnats, et en particulier en Amérique du Sud, où les supporters sont encore quand même plus chauds, je pense, que chez nous.
Ouais,
il y a des transferts qui se font pas, quoi, tu vois, et des River Plate, des Boca, des trucs comme ça, il y a des choses qui se font pas, je pense, non?
Ouais, bah, j'imagine que le PAOK, ça doit pas
voilà,
non plus.
C'est ça. Souvent on est voilà, en disant je suis de River, je suis de Boca et jamais de la vie t'iras dans le club adverse.
C'est vrai que en
France ou même en Espagne parfois il y a cette rivalité, mais on a connu quand même des joueurs. À la limite on a remarqué là, parce que j'ai fait un petit tour de certains transferts avortés. Ce dont tu te relèves pas trop, c'est des déclats très malheureuses,
oui.
Voire incendiaires sur le club.
Un match,
voilà.
Oui.
Et alors que la pure rivalité sportive, on l'expliquait, je pense que si tu mouilles le maillot, tu respectes ton club, ça peut passer. Mais si tu as eu des déclats assez durs, voire des insultes envers les supporters d'un club.
Non, mais là,
club,
tu scies la branche toi-même.
Hein. Ouais, voilà, c'est tira pas, quoi.
Oui, oui, mais Flo, puisque tu as la main et la parole, il y a Clément sur l'appli RMC Direct Studio qui nous dit: on a adoré Loric Sana et Gabi Ainsa. En revanche, on a détesté Fiorez qui avait tenu des propos anti-OM quand il était à Paris. Et pourtant, il est venu. Tu vois, les dirigeants de Marseille avaient quand même fait venir Fiorez et ça a été un échec, quoi.
Bah, ça a été un échec, mais je pense plus sportif qu'autre chose. Fiorez n'a pas fait de gros matchs à l'Olympique de Marseille. Mais tu vois, Sana, par exemple, il est presque tombé amoureux de l'OM et qu'il l'eût cru peut-être au début. Ou Gabi Ainsa.
Il a l'air fort passé au PSG. Mais les supporters, ils soient favorables au transfert de Loric Sana. C'est ça le truc.
À l'époque
à l'époque, ouais.
Ouais, à l'époque, il y a un peu de scepticisme, mais par sa capacité, sa grinta, comme on dit, à défendre le maillot, bah, il met tout le monde d'accord assez rapidement.
Mais voilà. Donc le débat est clos. Les supporters, ils ont droit.
Ça y est.
Ça y est.
Ils ont droit.
Ils font
émission. Le mec est bon.
Les supporters, ils sont géniaux. Les sportifs n'existeraient pas sans les supporters.
Alors bon, ok. Bon, il n'y a pas de débat avec Richard de toute façon.
Mais non, mais si. Il y a débat. Mais les supporters, ils sont primordiaux dans un club. Mais après, qu'ils interviennent sur le recrutement et dire non, lui, il ne doit pas venir. Ils donnent leur avis. Après, c'est le président qui décide. Putain, là, ça va être chaud. Peut-être il faut plus qu'il vienne. Finalement, on le fait venir.
Alors,
et après, c'est
question subsidiaire. Est-ce que vous trouveriez normal qu'avant justement de recruter un joueur, il faille un petit peu se renseigner sur ses antécédents, sur ses propos, puisqu'on a parlé de propos, sur son profil, sur son casier judiciaire.
Tu prends pas un mec comme ça au hasard. Il y a plein de choses. Tu fais une sorte d'enquête de moralité déjà sur lui.
Ah ouais.
Bien, évidemment.
Ouais.
Je suis sceptique parce que le cas de Jérôme Boateng qui était dans une affaire a été recruté Lyon.
T'as raison.
Suite à une affaire avec sa femme.
Oui, mais voilà, peut-être qu'il y a une personne qui passe entre les mailles.
Et pourtant, Lyon l'a recruté.
Oui, c'est assez surprenant.
Voilà.
Effectivement.
Donc c'est toujours un petit peu risqué dans un sens comme dans un autre. En tout cas, bon, comme Richard a déclaré que
non,
le débat était clos, on va l'arrêter.
Mais non, mais c'est pas moi, c'est vous qui l'avez.
Richard, donc, je suis d'accord avec toi. Quoi que tu dises, il n'y a pas de problème.
Vous dites, il n'y a pas de débat. En fait.
Bon, on essaiera de faire des débats, mais n'hésite pas à donner ton avis un petit peu avant l'émission, comme ça, on sait si on le fait ou si on le fait pas.
On a débattu. Le débat est clos.
On va remercier Flo. Merci beaucoup.
Merci les amis.
On rappelle Marseille Reims demain. Marseille-Reims, 20h45 à suivre sur RMC, bien évidemment. Et donc, on rappelle que Vertu est un nouveau joueur de Jordan. Ouais, je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé Florent. Jordan Vertu est un nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. Je t'avais dit que je partirais en live à la fin de CGG.
Ouais,
mais
c'est pas complètement fini, alors.
Allez, on revient dans un instant, les amis, avec les GG qui partent sur les terrains, ou plutôt qui vont monter dans les tribunes de la Ligue 1. Restez bien avec nous. 11h24 sur RMC. On vient dans un tout petit instant. À tout de suite.
RMC.
Bah non. Donc voilà, c'est un gros nom.
Donnez-lui ses cachets, s'il vous plaît.
Les grandes gueules du sport.
Voilà, terminé.
9h midi.
Mais non, mais arrêtez, on a débattu. On a débattu, donc le débat est clos. Il n'y a pas débat, quoi.
Est-ce que vous êtes conquis ou pas?
François Pinet.
Richard Bourque, qui fait une première fracassante dans les GG, vous l'avez entendu. C'est lui qui fait le conducteur, c'est lui qui choisit les débats et il dit quand
mais
ils sont terminés.
Mais non, mais c'est vous terminés. Qui déconnez. Mais enfin, me faites pas dire ce que je dis pas, quand même.
Tu as raison, Richard, tu as raison.
Mais ouais.
Vous avez reconnu la voix grave et suave de Frédéric Weiss, qui est là aussi, qui fait une très bonne première. Je tenais à te féliciter, Fred.
Merci beaucoup.
C'est et tu reviens. Et Marion, non, non. Et Marion Bartoli est avec nous. Mais Marion, c'est une habituée. La patronne, l'atelière, évidemment, de ces GG de ce samedi. Les GG qui continuent jusqu'à midi, bien sûr, avec dans un instant votre moment. C'est dans un quart d'heure. Si vous n'avez pas encore fait le 32-16, ben, c'est le moment d'appeler Amina. Venez pour réagir à l'émission. Vous avez un avis que les GG ont développé et qu'il ne vous a pas plu du tout. Ben, vous venez nous le dire. Si l'avis vous l'avez trouvé catastrophique, n'hésitez pas. On se fera un plaisir de vous accueillir et de vous entendre.
Ah, c'est comme ça, comme ça.
C'est comme ça que ça se passe. Ah, bah voilà, c'est ça le jeu. C'est ça le jeu.
J'adore.
Bah oui, oui, oui.
Par contre, les amis, c'est bon, j'ai déjà assez lutté depuis ce matin contre Fred et Richard.
Non, on choisit pas. Exemptée, tu sais, Marion, là, c'est bon. On sait pas. On sait pas. C'est le hasard. Hein, ce sont les auditeurs qui choisissent. Mais d'abord, c'est l'heure de prendre un petit peu de hauteur dans ces GG.
RMC, les GG sont sur le terrain.
Parce qu'on va s'installer en tribune, figurez-vous, avec Nicolas Pelletier de la rédaction RMC qui nous a rejoint. Salut Nicolas.
Salut à tous.
Nicolas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le sosie officiel de Pablo Longoria avec le petit bouc en moins.
Oui, peut-être.
On ne t'a jamais dit?
Non, jamais.
Ben voilà, c'est une première. Non, tu ne trouves pas, Fred?
Non, il est beau.
Il est beaucoup plus beau.
Richard, d'accord avec moi. Il est beau,
ouais, Nicolas, si tu es là, c'est que tu as pu dévoiler les mesures prises par la Ligue de football professionnel cette semaine pour éradiquer la violence dans les stades.
Oui, il y a un an, vous vous en souvenez sûrement, on jouait la première journée de championnat entre Montpellier et Marseille. En plein match, Valentin Rongier était touché au visage par une bouteille d'eau. Premier signe d'une saison ultra violente en Ligue 1. Un an plus tard, le club héraultais a décidé de prendre les devants en installant des filets derrière les buts. Pierre-Marie Grappin, le responsable de la sécurité du club.
C'est un filet qui est à petite maille, qui est notamment destiné à empêcher le jet des briquets, parce que nous avons une quantité invraisemblable à chaque match.
Ce système est souvent accompagné d'un renforcement des filets autour des parkages visiteurs. À Ajaccio, c'est carrément une cage qui a été installée pour recevoir les supporters adverses. Et ça pose question, Kylian Valentin, le porte-parole de l'Association nationale des supporters.
On prend avec beaucoup d'interrogations parce que la Ligue recommandait que le système anti-intrusion et anti-projection, ce soit pour les matchs classés à haut risque par la DNLH et dans les réunions préparatoires. Là, notamment, la cage qu'on a vue à Ajaccio, elle fait réagir et elle questionne beaucoup un petit peu sur le positionnement des clubs et l'interprétation qu'ils peuvent en faire.
Alors, les briquets seront encore autorisés dans les stades de Ligue 1 cette saison, ce qui n'est pas le cas des bouteilles d'eau. Elles seront interdites, c'est la grande nouveauté. Les supporters devront donc consommer leurs boissons dans des verres. Autre nouveauté de l'été en France, un policier référent chargé de faire le lien entre les autorités et les fans. Ce fonctionnaire sera au cœur du dialogue et devra surtout apaiser les tensions autour des moments chauds de la saison. Ça sera installé dans une dizaine de clubs, comme au PSG ou à Saint-Etienne, avant une généralisation à l'ensemble des clubs professionnels. Mais les associations de supporters le répètent, une meilleure formation des stadiers doit rester la priorité.
La solution la plus simple et la moins restrictive, c'est de mettre en place des stadiers. Sauf qu'on sait que les clubs sont confrontés à une pénurie de stadiers depuis la fin Covid, qu'il faut que les clubs aient envie. Il y a des clubs aussi qui peuvent ne pas vouloir le faire. Et l'autre exemple, le contre-exemple, c'est par exemple à Saint-Etienne, ce qu'on a vu en fin de saison dernière, où il y a eu un gros défaut sécuritaire en termes de stadiers, parce qu'il n'y en avait pas, parce que le club n'a pas forcément mis les moyens, parce qu'il ne voulait pas les mettre. Et du coup, forcément, après, on en arrive à des événements condamnables.
La pré-saison avec les matchs amicaux n'a pas du tout rassuré les autorités. Des incidents se sont produits entre les supporters du Torino et les supporters de l'OGC Nice, ou encore à Rennes avec des fans d'Aston Villa. Francaise, l'entraîneur du Racing Club de Lens, préfère retenir le positif.
C'est qu'il y a d'abord la sécurité des acteurs qui doit être au-dessus de tout. Cette sécurité-là, on ne peut pas toucher à ça. Là, on sort d'un match contre West Ham où il y avait 500 supporters anglais et ça s'est super bien passé parce qu'on a montré des images où il y avait une belle fraternité. Les Lensois et les supporters de West Ham étaient ensemble avec quelques belles bières. Bah, c'est ça le football. C'est le football qu'on veut voir. C'est la ferveur joyeuse.
Et puis, on va terminer en écoutant le joueur qui a été victime de violence à plusieurs reprises la saison dernière sur les pelouses de Ligue 1, Dimitri Payet, hier au micro de Florent Germain à Marseille. Heureux d'aborder ce sujet très important à ses yeux.
J'ai été le plus heureux déjà, franchement, honnêtement, d'avoir vu cette décision prise, parce que pour moi, c'est un pas en avant énorme par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce que j'ai vécu. Et je commence à me dire que voilà, ben, on commence à prendre des décisions qui font avancer ou plutôt qui font régresser la violence dans les stades. Et je pense que c'est le début de quelque chose. En tout cas, voilà, félicitations à la Ligue pour cette décision, parce qu'elle me semblait importante au vu de l'aube de cette nouvelle saison.
Il faut aussi signaler qu'il y a une modification du protocole en cas de débordement. Jusqu'à présent, c'était l'arbitre qui avait le pouvoir de renvoyer tout le monde à la maison. Cette saison, ça sera le préfet qui aura le dernier mot. On le rappelle, un rapport sur les violences dans les stades commandé par la Ligue au criminologue Alain Bauer sera rendu fin septembre. Il listera des mesures afin de poursuivre le combat de la LFP contre les violences dans les stades.
Merci beaucoup Nicolas. Tu restes avec nous pour ce débat et cette question pour vous les GG. Est-ce que ces mesures que vous venez d'entendre seront suffisantes pour éradiquer la violence dans les stades? Oui ou non, les GG? Marion Bartoli?
Non.
Richard Dourte?
Non.
Non plus. Frédéric Weiss?
Non.
Non. Trois non sur cette question. Alors que je précise aussi, Nicolas, que pour Toulouse-Nice, dimanche, il y a déjà eu des mesures qui ont été prises par rapport aux supporters. Les déplacements des supporters de Nice sera encadré par la préfecture et limité à un périmètre bien précis. Voilà, donc ils seront...
On peut aussi dire que l'année dernière, il y avait eu plus de 150 interdictions de déplacement des supporters au niveau national sur la saison de Ligue 1 et de Ligue 2.
Donc ça n'empêchera pas forcément les interdictions de déplacement, mais peut-être que ça les limitera, toutes ces mesures. Pourquoi non, Frédéric?
Parce qu'on a l'impression que c'est des vœux pieux. On a l'impression qu'on a vraiment envie de faire avancer le sport en général et le football en particulier, que c'est un spectacle qui doit rester familial et que malheureusement c'est pas toujours le cas. Je pense que tout le monde essaye, tout le monde va dans le bon sens évidemment, et tout le monde a envie que ça se passe bien, parce que pour tout le monde en termes d'image c'est important que ça se passe bien, mais que c'est pas suffisant. C'est tout simplement pas suffisant.
C'est-à-dire qu'il faudrait aller plus loin.
Faudrait encore trouver d'autres mesures. Faudrait interdire les briquets, par exemple. Enfin, c'est bête, mais par exemple, les interdire. Enfin, il y a plein de choses qu'il faudrait faire. Encore une fois, je suis pas criminologue, même si j'aurais aimé écrire quelque chose sur ça, mais c'est pas mon cas. Donc, non, effectivement, comme ça, ça a l'air d'être bien, mais on sait que dans les faits, ça sera un peu plus compliqué que ça.
Mais parce que c'est un problème de mentalité?
J'ai l'impression. Alors, encore une fois, on n'est pas le peuple qui fout le plus de bordel. Moi, j'ai joué en Grèce le derby Harris-Paok, où les mecs lançaient de tout, des cadenas, des briquets, des pièces chauffées pendant les lancers francs. Donc oui, je sais ce que c'est qu'un peuple complètement fou de sport, mais voilà, on n'a pas ces vices là, j'ai envie de dire, mais on a quand même c'est culturel un petit peu dans le foot.
Richard, tu voulais réagir à ce que disait Fred là, je t'ai entendu.
Ouais, c'est l'éducation des supporters. C'est tout. Après, on peut empêcher les bouteilles d'eau, il y aura toujours une parade. Ils trouveront toujours une parade. Je sais pas ce qu'il faut faire, comme disait Fred, moi non plus je suis pas criminologue, mais en Angleterre, l'hooliganisme est arrivé quand même de l'Angleterre, à peu près. Et puis ils ont réglé le problème. Il faudrait voir comment ils ont fait, parce que les stades, vous avez vu les stades, vous connaissez les stades de l'anglaise.
À vie.
Alors,
oui, il faut s'inspirer des meilleurs, entre guillemets, en tout cas.
Donc voilà, ils avaient vu les stades à l'anglaise. Ils sont au ras de la pelouse, les joueurs arrivent, il y a des stadiers, il n'y a rien qui part, quoi. Alors, une fois, de temps en temps, il y a 15 ans, il y a Canto qui a sauté dans les tribunes. Mais voilà, il faut peut-être s'inspirer des meilleurs pour qu'on aille au stade de foot sans la peur qu'il y ait des affrontements de supporters, ça en a peur qu'il y ait des trucs qui soient jetés sur le stade.
Encore une fois, un spectacle familial, il faut que ça reste.
Exactement.
Le football et le sport en général, c'est pas les jeux du cirque. C'est un spectacle familial où on doit pouvoir amener ses enfants et qu'il n'y ait pas de problème. Donc si on doit rallier les gens à vie du stade, il faut le faire.
Alors, du côté de l'Angleterre, les places sont très très chères désormais. Ils ont aussi élevé les prix des places et forcément ça fait aussi un tri. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on ne veut pas forcément voir.
sanctions soient
pas, évidemment,
que les sanctions soient plus fortes, ben ça va calmer du monde, quoi. Parce que maintenant il y a des vidéos dans les stades, donc on les voit, on sait qui c'est. Voilà, à peu près. Voilà, il y a un groupe et puis après une enquête. Il y a une enquête qui est faite. Ok, c'est toi. Maintenant, tu viens plus de stade. Mmh. Bah, il va aller voir un autre sport. Et à force, les autres vont se calmer. Non, mais peut-être.
Merci, on veut pas les récupérer.
Je sais pas. Il y a peut-être pas que la répression, mais c'est un des facteurs qui fera que ben le foot, on ira en famille sans avoir peur. Même moi qui suis
costaud,
un peu courageux et même assez méchant quand je jouais. On était en stage avec l'équipe de France à l'INSEP. On faisait. J'ai pris peur. Je suis allé voir PSG-OM. J'ai
c'était
pris
quand,
peur
ça
du comportement des supporters.
C'était quand?
Ouais, 80, ah oui, il y a 20 ans, il y a 15
ah oui,
ans.
Ah oui, avant le plan Le Pou.
Bah, c'était vraiment au top niveau quand même. C'était les CRS qui chargeaient comme un troupeau qui revenait de temps en temps avec des supporters parisiens qui jetaient des briquets sur le périph et des cailloux, etc. Enfin, c'était le haut niveau là. C'était. Mais nous, dans les tribunes, on avait un peu peur, quoi. Après, Fred, il a joué en Grèce. C'est un peu comme ça quand même.
Ah oui, c'est
faire attention. Et quand je crois que c'est Léo Westermann qui a joué à au Belgrade, partisan, ouais, c'est un peu pareil aussi, sauf qu'au taux de terrain quand même, il y a la police qui est armée comme pour une émeute, quoi.
Ah oui, bah, et elle regarde pas le match du tout. Hein,
ça se voit aussi en Ligue 1, hein, donc ça se voit aussi sur la fin de saison dernière.
On n'est pas
en Ligue 1,
au très haut niveau de violence, mais il faut que ça se calme, quoi.
Alors, voilà, on va
même
donner
si
la parole
pas quelqu'un.
À Marion Bartoli, mais Nico,
si vous voulez préciser quelque chose. Il y a trois sortes d'interdictions de stade. Il y a l'interdiction commerciale qui est à la main des clubs, l'interdiction administrative qui est à la main des préfets, l'interdiction judiciaire qui est à la main de la justice. Et pour faire évoluer, par exemple, une interdiction à vie, ce qui n'est pas le cas encore en France.
Pour l'instant, c'est pas possible, on est d'accord.
Il faut. Non, ce n'est pas le cas en France. On ne peut pas interdire à vie quelqu'un de stade. Et c'est même très difficile au niveau européen, parce qu'après, la justice européenne passe. Et en fait, pour l'instant, c'est limité à 5 ans maximum, mais il faudrait passer par la loi, il faudrait une intervention politique en fait, il faudrait une volonté politique pour avoir une interdiction peut-être à vie ou peut-être de 20-25 ans pour vraiment interdire
les
quelqu'un.
Les interventions, elles sont politiques. Quand on empêche les supporters de se déplacer, c'est une intervention politique.
Oui, et Richard, t'as raison, parce que là, les premières mesures qu'on annonce, c'est le résultat aussi d'une concertation ministérielle de décembre dernier, et ce sont les résultats qui se produisent pour cette saison, en fait.
Exactement, donc ce sont les politiques qui ont une volonté de calmer tout le monde. Mais donc s'ils ont une volonté, il faut peut-être qu'ils aient la volonté de changer la loi.
Et alors,
enfin, il me semble.
On va écouter
ça ferait un bon débat.
Peut-être que le rapport aussi d'Alain Bauer fin septembre permettra d'aller beaucoup plus loin dans les actions, parce qu'en fait, il veut un accord avec l'État avant la publication de son rapport pour toutes les solutions qu'il veut proposer.
Ça passe par la loi.
Voilà, il veut aussi des propositions qui passent par la loi.
Alors Marion Bartoli, on t'a pas encore entendu sur ce sujet. Disais non, hein, que encore une fois, tu étais sur la même ligne, c'est pas suffisant, il faut faire d'autres choses.
Absolument, et je suis complètement d'accord avec mes camarades sur tout ce qui a été dit. Moi, la chose que je retiens dans le positif, on va dire, en plus des filets, etc., c'est ce fameux protocole clair de 30 minutes maximum pour décider du sort d'une rencontre. Parce que c'est pour revoir un Lyon-OM ou un OM-Nice où ça prend 2 heures, où t'as les diffuseurs qui essayent de tenir l'antenne, où tu sais pas, ça va reprendre, ça va pas reprendre, et finalement, au bout de 2 heures et demie, on dit que le match est annulé, que c'est à rejouer. Je trouvais ça insupportable déjà aussi pour les gens qui regardent. Donc au moins déjà avoir ce protocole clair de se dire si malheureusement il y a un incident, en 30 minutes on prend la décision, soit on reprend pas. Ça, je trouve ça dans les points positifs en plus de ce qu'a décrit Nicolas dans son sujet. Moi après, ce que j'ai trouvé quand même incroyable sur cette saison passée, c'est qu'il y a eu une recrudescence de la violence comme quasiment jamais. Donc j'avais l'impression qu'à chaque week-end il y avait quelque chose qui se passait entre les envahissements de terrain. Il y a eu des fights, des combats organisés entre supporters en dehors des stades pour se retrouver, se bastonner. Donc il y a eu des blessés quand même graves.
Mais il y a eu une pause à cause du Covid, Marion aussi.
À cause du Covid, les gens sont revenus
surexcités au stade.
Bien sûr, mais je trouve que justement il faut frapper plus entre guillemets plus fort contre cette violence et les mesures. Et c'est là où je vous rejoins totalement. Je pense que ces mesures là, j'ai cette sensation-là que les spectateurs vont trouver des parades pour justement balancer autre chose, arriver à envahir le terrain d'une autre façon, et que j'ai pas l'impression que le message envoyé soit assez finalement strict pour que les fans et les supporters se disent on va quand même se tenir un peu plus à carreau. Parce que oui, à la fin, on a envie que notre équipe gagne, mais pas dans des conditions, ça devient quasiment de la guérilla, quoi. Donc, moi, c'est, enfin, d'entendre un chant moquant la mort, quand même, d'Emiliano Sala dans les, qui descend les tribunes niçoises, je sais pas si vous trouvez pas ça choquant, mais on a un niveau de bêtise, c'est absolument hallucinant, quoi. Donc, on peut plus continuer à laisser des gens faire ça dans un stade, je suis désolée, c'est plus possible.
Précision de Nico.
Et je sais pas si vous vous souvenez des incidents au Stade de France, il y avait la note de la division de lutte contre le hooliganisme qui avait été publiée quelques jours avant, mais qui avait été révélée après les incidents, qui prévoyait tout ce qui s'était passé au Stade de France. L'année dernière, la note de la DLNH qui avait été publiée avant la saison avait, prévu tout ce qui s'était passé pendant la saison. Et donc là, on attend la fameuse note dans les prochains jours qui devrait être rendue peut-être pas publique, mais qu'on essaiera d'avoir et qui pourrait prévoir aussi ce qui va se passer sur cette saison.
En tout cas, il y a une vraie inquiétude.
Ce qui est paradoxal, c'est que, en fait, on parlait tout à l'heure du poids des supporters dans le recrutement, ok, ils ont leur tour. Mais et là, dans le mauvais comportement, ce sont les premiers punis après, puisque il y a des stades à huis clos, il y a des matchs qui sont arrêtés. Comme disait Marion, ça met 2 heures à reprendre, c'est un bordel sans nom. Ça reprend, ça s'arrête. Enfin bon, ils s'auto-flagellent en fait.
Les bons supporters ne font pas ça.
Les vrais supporters veulent voir du foot, du rugby ou du tennis.
Là, on parle d'une infime partie de la.
Mais ils punissent tout le monde, quoi. Donc peut-être que c'est à l'intérieur qu'ils doivent. C'est peut-être à l'interne, entre eux, qu'ils doivent faire la police, quoi.
11h46, je vais poser cette question à Richard. Est-ce que le débat est clos?
Pas sûr, parce que celui-là, il y en a encore. Non, parce qu'on n'a pas trouvé encore un accord total, donc le débat n'est pas clos.
Alors, tu me permets quand même de passer la main. On va passer à un autre sujet. Merci en tout cas, Nicolas. Merci de continuer, évidemment. Merci, Nicolas Pelletier de la rédaction RMC. Dans un instant, c'est votre moment. Les GG et vous, on vous attend bien sûr au 32-16 pour venir affronter une GG. Je vous préviens, il faut être solide comme ça. Alors, Marion ne veut pas entendre parler de vous, mais peut-être que vous viendrez vous affronter avec Marion Bartoli. Restez avec nous, c'est dans un tout petit instant les GG qui reviennent sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h30, François Pinet.
Les GG de retour, encore 10 minutes à passer ensemble, ça passe tellement vite les amis. C'est jusqu'à midi, vous le savez, avec aujourd'hui Marion Bartoli, Frédéric Weiss et Richard Dourt. Si vous vous réveillez seulement, vous avez de la chance d'abord à 11h50, mais je voulais vous prévenir que le podcast de l'émission était disponible et ça s'est plutôt bien passé avec un Richard Dourt carré, qui fait les débats, qui les mène et qui les clôt. Vous pouvez réécouter ça, bien sûr, en podcast. Allez, tout de suite, c'est votre moment, les GG.
RMC, les grandes gueules du sport et vous.
On accueille Ali qui a fait le 32-16. Salut Ali.
Bonjour les GG du sport, vous allez bien?
Ça va très bien et toi?
Salut. Oui, impeccable.
Alors, quel GG veux-tu affronter?
Marion.
Ah, dis-donc, ça n'a pas été ma matinée.
Je crois que le discours est
Qu'est-ce que vous avez contre moi aujourd'hui?
Vas-y Ali, on te laisse parler.
Alors moi, je n'ai pas grand-chose habituellement contre toi. Il y a juste que là, je me demande si tu n'es pas en train de virer de sportive à politique. Parce que mais je vais finir de t'expliquer pourquoi. Parce que tu as la mémoire et l'opinion sélective comme les sportifs, comme les politiques. Je reviens moi pour la fédération de basket concernant les athlètes français qui joueraient dans des clubs russes où on leur dit c'est le choix, où vous jouez en équipe de France ou vous restez dans vos clubs. À ce que je cherche, la fédération française leur paye pas un salaire mensuel. Et si ils arrêtent le club russe et qu'ils n'ont pas d'autres clubs, ils vivent comment? Ensuite, ce qui me pose un problème, moi, et je suis pas pro-russe, je m'en fous de la Russie, j'ai jamais mis les pieds, j'ai pas l'intention d'y mettre les pieds, mais si on commence à faire ça, dans ces cas-là, on doit être équitable pour tout. Ça veut dire que on fait plus rien avec l'Arabie Saoudite, puisqu'ils bombardent le Yémen et compagnie, ils sont derrière les actes terroristes, quoi qu'on en dise. La vie des femmes là-bas, on peut pas vraiment dire que ce soit réjouissant. Alors on a fort, parce que l'ONU a quand même nommé un prince responsable de la condition de la femme, donc j'ai toujours pas compris non plus. On a la Chine, alors on a le Qatar, et puis on peut aller plus loin, il y a l'Angleterre, il y a la Belgique, il y a nous. Et dans ces cas-là, si on commence à tout mélanger, faisons-le. D'accord. Il n'y a pas de problème, mais faisons-le pour tout le monde. Pas juste en ce moment, parce que c'est bien de taper sur la Russie, quoi.
On va écouter, vas-y. Oui, t'avais quelque chose à rajouter, Ali.
Et,
ouais. Oui.
Et en plus, je pense que c'est pas la Fédération française de basket de prendre de ces décisions. Je pense que les sénateurs et les députés n'ont pas voté une loi nous disant que l'on doit supprimer tout contact avec la Russie. Et puis je rappellerai aussi que notre partenaire et allié allemand a, malgré tout ce qui se passait, continué à prendre le gaz russe pendant de nombreux mois sans que ça choque personne. Donc si on prend toujours l'Allemagne en exemple, je vois pas en quoi une fédération délégataire de pouvoir peut se permettre de faire ça, parce que y a-t-il pas quelque part une rupture de service public du coup avec leur délégation en permettant
on a bien compris.
À des athlètes français de pas meilleurs de ne pas participer.
On a bien compris, Ali, ton point de vue, et puis c'était le point de vue aussi de Fred et de Richard, hein, de dire bon voilà, on peut pas les bloquer, puis sinon où on va, si on commence à le faire pour la Russie, on peut le faire pour d'autres conflits dans le monde. Marion, une dernière fois, pour être très clair.
Encore une fois, c'est un débat qu'on a eu toute la saison et je comprends qu'il y a des gens qui ne soient pas d'accord avec moi, mais je resterai quand même sur ma position et je suis désolée Ali, mais pour moi, il y a quand même la force du symbole. Alors oui, c'est peut-être symbolique et peut-être que ça va gêner quelques athlètes français, même je suis pas forcément certaine qu'il y ait beaucoup de basketteurs qui se retrouvent vraiment dans la position de voir choisir entre un club en Russie et un contrat à l'année ou une équipe de France. Il faudrait me sortir des noms, mais je suis pas certaine que ça nécessite, enfin en tout cas ça soit présent pour beaucoup de basketteurs, mais je crois quand même en la force du symbole et même si c'est effectivement symbolique et même si parfois ça peut déranger une ou deux personnes et un ou deux athlètes, je crois quand même que la décision a été prise. Et en tout cas, si la fédération l'a prise, c'est qu'en âme et conscience, ils avaient un intérêt, ils trouvaient un intérêt à prendre cette décision et moi je la retiens.
Très
alors
bien.
Dans le tennis, ça a été à deux poids deux mesures aussi, mais je crois en la force des symboles.
Parfaite Marion pour cette réponse à Ali. Évidemment, le débat peut continuer, n'en déplaise à Richard Dourte, le débat n'est pas clos sur ce sujet. Merci beaucoup Ali. On va prendre Benjamin à 11h54 pour terminer les GG de ce samedi. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Bonjour.
Tu en veux à qui ce matin?
Eh ben moi j'en veux déjà à la rédaction de RMC de mettre deux pignoufs comme ça dans les pattes de Marion. Non, je plaisante. Vous avez fait une très très bonne première. Vous avez fait une
merci,
très très bonne
alléluia.
Première. Mais...
Alors,
vous l'avez pas
je crois que tu connais pas
pauvre.
Frédéric Weiss, parce que moi il est à côté de moi, il est quand même très très grand et très costaud. Bon, mais après, Benjamin, tu fais ce que tu veux. Hein.
Ouais, écoute, Vince Carter, on en parle pour son ego surdimensionné.
Oui, quand j'ai eu une médaille olympique que tu n'auras jamais.
Je suis tout à fait d'accord.
On va rester quand même
le débat est clos
sur le terrain. Je voulais réagir à une réaction de Fred en particulier.
Et après, il va être
sur l'esprit club. Est-ce que les supporters n'ont plus le droit de s'exprimer, etc., etc. Moi, je pense que Fred a un problème. C'est peut-être que tu viens du basket et vous êtes très franchisé et vous vous rendez pas compte qu'il y a quand même une empreinte locale dans les clubs européens.
Voilà, bonne question qui amène une réponse de Frédéric.
Oui, alors effectivement, je viens du basket, je ne peux pas te dire le contraire, mais je ne comprends pas bien ta question en fait. Mais
il explique que puisque tu viens du basket, tu n'as peut-être pas les.
J'ai pas les codes.
La même idée que ce que peut être un supporter de foot qui est garant de l'identité d'un club, un club
non,
local.
Alors ne te méprends pas. Quand j'ai posé la question, j'ai dit est-ce qu'un supporter est plus garant de l'identité ou est plus ravi d'avoir des victoires. J'ai vraiment posé la question et c'était une vraie question. Je le pensais vraiment. Je n'ai pas de réponse à apporter. Mais si toi tu me dis que les supporters en général ont plus d'importance à l'identité qu'au résultat, moi je l'entends tout à fait. Mmh.
Voilà Benjamin. Ça te convient
la réponse?
Ah
mais tu fais corporate.
Une dernière question pour mieux.
Ah bah on n'aura pas le temps Benjamin pour une dernière question. Je suis désolé Benjamin.
Larry Bird ou Magic ont gagné avec une équipe ou alors LeBron qui a gagné avec plein d'équipes.
Hein?
Je trouve que c'est fort la longévité, mais c'était beaucoup plus possible avant. LeBron, ce qu'il a fait quand même, c'est fantastique. Moi, pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur de l'histoire de NBA.
Bon, en tout cas, merci Benjamin d'être passé. Et puis, on verra après pour la rencontre avec Fred. Hein, d'accord
avec un grand plaisir.
On verra avec Amina.
Viens nous voir. T'as l'air de connaître un peu le basket. Donc, viens me voir.
Benjamin, tu reviens quand tu veux, évidemment, dans les GG. C'est ouvert. Merci beaucoup, Fred, pour ta première. Je t'applaudis.
Merci beaucoup.
Félicitations.
Moi,
merci, Richard.
Moi, j'ai personne.
Bah non, mais toi, tu clôt les débats.
Personne ne peut appeler.
Merci, Richard.
Toi, ils ont peur de toi, Richard.
Merci beaucoup, Marion. Merci. Et merci à tous les trois. On se retrouve demain pour de nouvelles Grandes Gueules du Sport.